Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes.
You are fake news.
On s'est habitué, on s'est résigné à cette violence quotidienne sur les réseaux sociaux. Injures racistes et antisémites à tout va, dupliquées à l'infini, gravées dans le marbre virtuel dont elles ne disparaissent pas. Favorisées par l'anonymat et semblant proliférer dans une zone de non-droit. Car loi, il y a en France. Le problème, c'est qu'elle ne s'applique que peu ou pas. Le problème, c'est que nous tous subissons ce genre d'attaque sans les signaler, sans savoir d'ailleurs si l'on peut le faire et comment on peut le faire. Une députée cosigne un rapport précis et efficace pour des solutions concrètes, immédiatement applicables et conformes à la liberté d'expression.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour à tous et bonjour à vous Laetitia Avia.
Bonjour.
Vous êtes députée de la 8e circonscription de Paris. Ce rapport dont je parle, j'en recommande la lecture. C'est rare qu'un rapport parlementaire soit agréable à lire et accessible à nous tous. Il ne jargonne pas, il n'est pas si technique que cela et il est intéressant. C'est un rapport qui a été établi, alors il y a deux confrères qui signent avec vous, Karim Amelal qui est essayiste et enseignant et Gilles Taïeb qui est le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France. On va en parler dans un instant. D'abord, un petit hommage. Jean Lanzi est mort hier. Il était une grande figure de la télévision après des débuts sur Paris Inter. Oui, oui, Paris Inter, c'est l'ancêtre de France Inter. Il rejoint l'ORTF et présente l'émission politique Face à Face. Il présente ensuite le journal de la deuxième chaîne, puis passe sur la Une, dont il sera directeur de l'information. Il fut aussi, vous l'avez peut-être oublié, l'un des présentateurs de 7 sur 7, l'émission d'Anne Sinclair. Écoutez comment il savait saisir le téléspectateur.
Vous me demandez de parler de Patrick Sébastien. Comment parler du néant, car Patrick Sébastien n'existe pas. Copieur d'esprit, voleur de tête, kidnappeur de démarches, détourneur de voix, l'artiste est créateur. Comment peut-on se dire artiste quand on ne fait que voler la création et le talent des autres? Voilà ce que je pense de Patrick Sébastien. Et j'ai signé Patrick Sébastien, et c'est sorti en décembre dans la revue Chanson 84. Donc j'ai cité, Patrick, ce que vous pensez de vous-même au deuxième ou au troisième degré.
Au quatorzième degré.
Au quatorzième.
Voilà, c'était Jean Lanzi dans le texte qui nous a quitté. Mon invitée s'appelle donc Laetitia Avia, elle est députée. Laetitia Avia, cette année, Cécile Djunga, qui est présentatrice météo à la télévision belge depuis un an, a souhaité s'exprimer. Un énorme coup de colère, les larmes aux yeux sur les réseaux sociaux. Un an de messages de haine pure qui déferlent sur elle et sur sa chaîne.
Je pensais pas qu'on pouvait vraiment vivre des choses comme ça. Là, ça fait un an que je reçois ce genre d'insultes et je n'en peux plus. Donc, ça doit s'arrêter. Tous les gens qui reçoivent ce genre de messages, mais moi je dis ça parce que je suis noire, mais il y a des gens qui sont gros, qui sont musulmans, qui sont arabes, qui sont, j'en sais rien, roux, avec des lunettes. Tous les gens qui se font persécuter sur les réseaux sociaux, ça doit s'arrêter, le harcèlement sur les réseaux sociaux.
Madame la députée, vous êtes noire vous aussi, je le précise parce que nous sommes à la radio. Après, on peut nous regarder sur franceinter.fr. Cette année, vous avez reçu cette lettre vous qualifiant de grosse truie noire venue d'Afrique. Vous aussi, vous l'avez médiatisée, vous l'avez tweetée cette lettre. Je cite la lettre, votre passage dans les médias nous donne la nausée. Vous feriez mieux de vous mettre au travail chez le peuple retardé d'Afrique qui ne pense qu'à nous soutirer de l'argent. L'Africain est à mi-chemin entre le singe et l'homme. Compte tes jours, on va s'occuper de toi. Menace de mort. Donc, vous avez porté plainte.
Exactement.
Voilà, ça c'est une lettre qui vous a été adressée à l'Assemblée nationale. Il en va de même sur les réseaux sociaux?
Alors, j'ai reçu cette lettre en effet en février. J'en ai reçu deux, trois autres après. Sur les réseaux sociaux, c'est autre chose.
C'est-à-dire?
Quotidien. C'est-à-dire que j'ai des messages de haine quotidienne, des messages qui sont empreints d'énormément de colère. Cette lettre, c'est une lettre qui pour moi a été écrite avec énormément de raison et de recul. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprétée, parce que je pense que c'est une lettre écrite par quelqu'un qui est fondamentalement raciste, vraiment. Sur les réseaux sociaux, on a des propos qui sont davantage des propos haineux, colériques, qui ne sont pas plus tolérables pour autant.
Qui sont beaucoup plus impulsifs,
voilà,
vous voulez dire.
Exactement. Voilà, exactement. Et justement, je pense qu'on est de nombreuses personnes à recevoir tous les jours des messages de ce type. Mmh. On a à peu près 70% pardon, de la population française qui est victime de ce cyberharcèlement sur notre dans notre pays.
Alors, nommons ce dont on parle. Le fait de racisme dont parle Cécile Djunga ou que vous racontez vous est un fait de racisme relativement simple à caractériser. Imaginez un site d'info qui cogne en continu sur les migrants, c'est un problème que vous soulevez. Racisme ou pas racisme?
Alors, on est justement dans ce qu'on appelle les contenus gris. Mmh. C'est-à-dire que si on est sur des propos qui sont explicitement racistes, et là, on sait très bien, les propos que vous avez énoncés tout à l'heure, il n'y a pas d'ambiguïté.
Non.
Là, on est face à une obligation qui est pour nous une obligation mais non équivoque de la part des plateformes, des hébergeurs.
On va y venir justement, voilà, à ces obligations.
Il faut
mais
il
parlons faut du contenu, voilà, parce qu'il est parfois difficile. Un compte Facebook farouchement opposé à l'État d'Israël, antisémite, pas antisémite, le racisme anti-arabe, islamophobe, tout ça, parfois ça peut devenir extrêmement complexe.
À côté de cela, justement, il y a ce qu'on appelle des contenus gris, qui reposent aussi souvent sur des associations d'idées. Il faut faire attention à maintenir une liberté d'expression.
Absolument.
Le racisme n'est pas une expression, n'est pas une idée. Le racisme, l'antisémitisme, ce sont des délits, ce ne sont pas des opinions. Donc, il est important de marquer une ligne entre les deux, c'est-à-dire des idées, des commentaires qui peuvent exister et qui doivent perdurer dans notre démocratie, et à côté de cela, des propos qui sont des propos délictueux dès lors qu'ils sont racistes ou antisémites.
Alors, une ancienne candidate au municipal sous l'étiquette Front National, vous vous en souvenez, jugée et condamnée pour avoir posté un photomontage comparant Christiane Taubira, garde des Sceaux à l'époque, comparée à un singe. On l'entend, cette ancienne candidate.
Le photomontage de Christiane Taubira, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il a été posté sur mon Facebook au mois de juin l'année dernière. Je l'ai effacé 3 jours plus tard et la personne qui est venue me filmer, Séverine Brun, la journaliste de France 2, a réussi à retrouver cette photo alors que des milliers de Français l'avaient déjà sur leur Facebook.
Première chose, les délais. Vous souhaitez imposer aux plateformes un délai de 24 heures pour retirer les contenus haineux s'il existe une menace vis-à-vis de l'intégrité d'une personne. 1 mois pour les autres contenus. La première chose, c'est ce marbre virtuel dont je parlais dans mon introduction.
Oui, exactement. 24 heures, c'est ce qu'on propose. Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est de renforcer les obligations qui reposent sur les plateformes. Alors, pas sur toutes les plateformes. Mais on considère que lorsque l'on est en présence de Facebook, Twitter, Instagram, on a finalement des plateformes qui ont une possibilité d'amplification du contenu. Parce que elles peuvent créer une viralité.
Absolument.
Et donc là, on crée un statut d'accélérateur de contenu. Et on
donc une responsabilité.
Une responsabilité accrue. 24 heures pour supprimer des images telles que celle-ci ou des propos explicitement racistes, antisémites, homophobes, ce n'est pas une difficulté. Oui.
Avec une possibilité de mise en quarantaine de certains contenus, parce que c'est ce qu'on disait, il y a des choses qui sont difficiles à expertiser.
Exactement, et c'est là qu'il faut faire attention, puisque lorsqu'il s'agit des contenus gris, on ne peut pas non plus laisser toute cette responsabilité aux plateformes, puisque finalement, ça reviendrait aussi à laisser aux plateformes la possibilité de juger de ce qui va être ou non antisémite, raciste ou non. Et là, justement, il faut qu'on prenne un peu de recul. Alors, nos voisins allemands n'ont pas choisi cette solution. Eux ont une réglementation bien plus forte avec cette obligation de suppression des contenus, mais pour tout, sans distinction, en fait, entre ce qui est explicite et ce qui est gris, ce qui crée un certain système de censure préalable. Donc, on a voulu vraiment éviter cela. C'est pourquoi on propose cette mise sous quarantaine et la possibilité pour une autorité ensuite de déterminer vraiment ce qui sera ou non haineux.
C'est pas moi qui l'ai fait. Hein, on entend Anne-Sophie Leclerc, cette candidate Front National. C'est pas moi, il n'était pas de moi ce montage. Je n'ai fait que le relayer. Hier était jugé à Paris Gérard Filoche, un membre du Parti Socialiste qui en a été exclu pour avoir tweeté un photomontage antisémite. On y voyait Emmanuel Macron bras levé devant un globe terrestre, le brassin d'un brassard d'allure nazie orné d'un dollar à la place de la croix gammée. Il a dit pareil, mais ce photomontage, il n'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai fait. D'ailleurs, il avait été tweeté la même année par Alain Soral.
Oui, mais on ne le fait pas. mais on le diffuse.
C'est ça.
Et donc, on participe à la viralité. Mmh. Et donc, on participe également cette atteinte à l'intégrité aussi de ceux qui reçoivent et perçoivent ce message. Donc, à partir de ce moment-là, on est responsable.
Les gens savent-ils, Laetitia Avia, qu'ils peuvent signaler et savent-ils comment signaler et auprès de qui ?
C'est un véritable casse-tête. Mmh. Alors, on a fait, nous, au sein de la mission, cette expérience, hein, sur les différentes plateformes. On a essayé de signaler des contenus. Alors, c'était assez facile sur mes comptes, puisque moi, j'en ai tous les jours, hein, des messages de ce type. J'ai signalé sur les différentes plateformes. Déjà, rien n'a été supprimé, je tiens à le dire. Et d'ailleurs, on a pu ensuite aller voir Facebook, Twitter, etc., en leur disant, écoutez, voilà, ça, c'est encore présent sur le site. Hein. Mais surtout, c'est un casse-tête qui dissuade la victime d'aller plus loin. On propose sur Twitter, par exemple, principalement, de bloquer la personne, l'utilisateur. On a des fournisseurs d'accès à Internet.
Bloquer la personne, c'est moi qui bloque quelqu'un.
Voilà.
C'est-à-dire
je
que
bloque, mais voilà, c'est-à-dire la que plateforme, la personne va continuer. Mmh. Sur avec certains fournisseurs d'accès à Internet, lorsqu'on demande qu'il y ait un déréférencement, par exemple, d'un site haineux, parce qu'il y a des sites qui sont pleinement consacré à cela, il faut qu'on envoie un courrier recommandé. Mmh. À l'ère du numérique,
alors qu'est-ce que vous proposez, vous proposez une procédure de signalement uniformisée, c'est-à-dire la même pour tout le monde, clairement identifiable par un logo standardisé.
Exactement, un logo standardisé. Alors, et ça va être un élément important, notamment hein, dans les discussions qu'il va y avoir avec les différentes plateformes, parce qu'il s'agit de toucher finalement à leur charte graphique.
Ouais.
Toutes les plateformes nous diront la même chose. Elles ont envie d'enlever ces contenus. Elles sont de bonne foi
maintenant,
et elles veulent. Voilà,
concrètement,
moi je pense qu'il faut mettre maintenant des actes en face des bonnes intentions. Mm-hmm. Donc accepter une modification de la charte graphique pour que tout le monde
vous y avez réfléchi
exactement ce même logo.
Alors vous avez des propositions à leur faire ?
Non, on s'est dit qu'on allait tout de même laisser cet élément-là
à une discussion
collective avec des graphistes qu'ils fassent cela ensemble. Parce que moi j'étais prête déjà à dessiner quelque chose, bien sûr. Mais on leur a dit qu'on allait leur laisser
vous
tout de même cela.
Reprendre le logo Banania, jouer avec ça au second degré.
Il faut que ça soit identifiable par tout le monde,
évidemment.
Et surtout par
vous voulez également frapper au porte-monnaie, Laetitia Avia, amende en cas de manquement des grands réseaux et moteurs de recherche. Vous proposez de multiplier par 100 le montant des amendes actuelles. Maximum 7,5 millions d'euros pour des personnes physiques. Moi, par exemple, si je tweet. 37,5 millions d'euros pour des personnes morales. Une personne morale, c'est France Inter, par exemple, ou c'est Twitter. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre.
Mais c'est pas exactement 7 millions pour vous.
Non.
C'est, alors, les sanctions qui sont... Oui, physique. Mais si vous avez une plateforme. C'est-à-dire que...
D'accord.
Voilà, ces sanctions renforcées, c'est uniquement pour les plateformes, c'est pas pour l'auteur des tweets.
Alors justement, l'auteur des tweets, c'est par là que je voulais commencer. Il y a une grande question qui est celle de l'anonymat, évidemment. L'anonymat qui peut être garant aussi de la liberté d'expression, mais qui est le vecteur, évidemment, de la haine. Je vous parle de Rokhaya Diallo, qui est militante féministe et antiraciste, insultée sur Twitter. Je vous lis le tweet en question. Il faut violer cette conne de Rokhaya Diallo, comme ça, finit avec le racisme. Message anonyme, elle porte plainte et à l'orée du procès, elle réalise un documentaire qui s'appelait « Les réseaux de la haine ».
J'aperçois pour la première fois mon agresseur en grande conversation avec son avocate. Dans quelques minutes, il devra rendre compte de ses propos devant le tribunal. L'audience est longue et éprouvante. Pendant les échanges, je suis frappée par le profil de mon agresseur. Un homme introverti, intimidé par la cour et qui ose à peine me regarder. Un Français lambda, comme on peut en croiser des centaines dans la rue. Cela ne me rassure pas. Je ne comprends pas comment cet homme à l'air si inoffensif a pu me menacer de viol.
Il y a eu beaucoup de papiers sur ce procès. Et ben, cet homme inoffensif, il s'appelait Samir, donc il était lui-même arabe, ce qui n'empêchait pas de proférer des insultes racistes. Il était travailleur handicapé, il était bègue, il était mort de timidité pendant ce procès. C'est intéressant parce que ce qu'on appelle la fachosphère, parfois c'est un terme un peu paresseux et bateau. Et c'est pas toujours ceux qu'on imagine qui sont derrière ces insultes.
Oui, et puis certains pensent que dès lors qu'on est derrière un écran, eh bien, on est dans un autre monde, un monde virtuel dans lequel tout est est tolérable et tout est toléré. Le point de départ de ce rapport, c'est de dire que non, cela est faux. Dans votre journée, vous avez tellement d'interactions sur les réseaux sociaux, peut-être même plus que d'interactions dans ce qui est considéré comme étant le réel.
Ce que vous dites, c'est la vie.
C'est la vraie vie.
C'est la vraie vie.
C'est la vraie vie. Et donc, on n'est pas une personne différente sur Internet que dans une interaction dans un café. Et donc, on n'a pas à accepter ce qu'on va faire sur Internet et la condamner dans des interactions dans la rue.
Vous vous souvenez peut-être en 2012 du hashtag Un bon juif qui avait fait les titres de la presse. Un bon juif au chômage, il ne postule même pas chez Gaz de France. C'était ce genre de blague qui circulait. Ça a été le début d'un long bras de fer entre Twitter et la justice française. Même le gouvernement s'en était mêlé à la suite d'une plainte de l'Union des étudiants juifs de France. Et pour la première fois, Twitter a donné des données permettant l'identification de certains auteurs. Il y a ça comme problème. Identifier les auteurs et ensuite identifier les sites. Parlons des auteurs d'abord.
Mais vous savez, l'anonymat n'existe pas en réalité sur les réseaux sociaux. Ouais. Et toutes les plateformes ont l'obligation de pouvoir retracer les personnes qui s'inscrivent sur ces plateformes. De toute façon, on utilise beaucoup nos téléphones portables, donc c'est très simple en réalité. Mais il est vrai que, notamment parce qu'elles sont hébergées principalement aux États-Unis, elles n'ont pas tendance à répondre aux réquisitions judiciaires. C'est pour ça que nous augmentons les sanctions, parce que la règle existe déjà dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique, hein, qui est une loi qui date de 2004, qui doit permettre de faire lever l'anonymat, mais les plateformes ne répondent pas. Donc nous, on propose une sanction qui est assez forte, 37,5 millions d'euros. Je précise que ça reste tout de même inférieur à la sanction allemande qui est de 50 millions d'euros.
Vous proposez aussi de frapper au porte-monnaie du côté des annonceurs. Vous proposez de publier publiquement la liste des annonceurs qui investissent sur ce type de site. Ou en tout cas, que ça ne dérange pas.
Bien sûr. Alors, il y a un site, par exemple, qui s'appelle Démocratie Participative, qui est un site haineux, horrible. Moi, j'adore, enfin, je suis leur coqueluche ces derniers temps. Ils font un petit article sur moi de manière récurrente. Je suis la négresse, etc. Enfin, voilà.
Et vous y voyez toutes sortes de pubs.
Et on y voit des pubs et vraiment d'annonceurs qui sont des annonceurs que l'on a sur les grandes chaînes du service public également. Donc, il y a un moment, c'est ce qu'on appelle le name and shame. C'est que on dénonce tous ceux qui financent ces sites haineux.
Par ailleurs, les sites illicites en droit français, il existe depuis 2014 une loi qui a permis de renforcer la lutte contre le terrorisme, ont des possibilités administratives de bloquer des sites. Ça aussi, vous voulez vous en inspirer parce que la plupart de ces sites, vous l'avez dit, sont hébergés à l'étranger, donc inaccessibles, donc de toute façon, ces procédures n'aboutissent jamais. Vous vous proposez de vous en prendre aux fournisseurs Internet.
Exactement. Ils ont la possibilité de bloquer l'accès sur le territoire français ou de déréférencer si on voit cela directement avec Google. L'objectif, c'est quoi? C'est de se dire, on va pas pouvoir supprimer ces sites. On le sait très bien. Faut être pragmatique. Ce qu'on veut, c'est ne plus les voir. C'est finalement réduire leur capacité de nuisance.
Alors, simplement un dernier mot, Laetitia Avia. Je lis votre rapport. Les effets de la haine en ligne, en termes de dislocation des sociétés, sont à considérer avec autant de sérieux que ceux de l'apologie du terrorisme ou de l'extension de la pédopornographie.
C'est vrai, c'est vrai, et on voit la vitesse avec laquelle ces propos se propagent, et on voit à quel point cela peut détruire une personne, et cela peut détruire aussi, moi je pense, une vie. Vous avez commencé cette émission avec cette présentatrice belge, moi je me souviens de ce moment qui était un moment très émouvant.
Ouais, elle est très émouvante, la vidéo.
Voilà, on sent que c'est un tournant dans sa vie. On sent même peut-être une envie de renoncer et je pense qu'elle n'a pas renoncé. C'est ça le plus important aussi.
Merci beaucoup Laetitia Avia. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche, députée de la 8e circonscription de Paris et que ce rapport est assez accessible sur le site gouvernement.fr. Merci d'être venue. Bonjour Ali Rebehi.
Bonjour Sonia de Villers.
L'agroalimentaire.
Ben oui, on reçoit un repenti du secteur agroalimentaire. Ouais. Christophe Brusset qui publie « Et maintenant on mange quoi ?» et qui va nous aider ce matin à débuter les mensonges et pièges de l'agroalimentaire.
Avec toutes vos questions.
Exactement. 01 45 24 7000.